Judaïsme pluriel. Un regard sur les sciences, l'histoire, la musique, la littérature, animé par Roland Bentoussan. Chers amis, bonjour. La semaine dernière, nous avons reçu René-Dré Bentoussan pour votre émission Judaïsme pluriel, dont le titre était « Peut-on parler de vérité historique ?» ou « Comment construit-on l'histoire ?» René, je le rappelle, est historienne. Elle nous a expliqué à propos de la vérité historique que la vérité n'existe pas, mais que des vérités sont atteignables. En effet, l'histoire est une construction humaine, nous a-t-elle dit, une construction qui dépend des sources du moment, des questions que l'on se pose alors, des nouvelles problématiques et aussi des découvertes scientifiques permettant d'acquérir de nouvelles sources. Il y a des sources écrites et des sources non écrites, et René nous en a donné quelques exemples. Mais, à partir de ces sources, nombreuses et de diverses origines, comment construit-on l'histoire ? Il y a une méthodologie très précise garantissant l'exactitude de cette construction, même si, comme René nous le précisait, cette construction dépend aussi de celui qui l'écrit. Eh bien, aujourd'hui, René nous fait le plaisir de revenir pour nous parler justement de cette construction méthodologique spécifique à la discipline qu'est l'histoire. Bonjour René.
Bonjour Roland.
Eh bien, merci d'être avec nous encore.
Je suis toujours là.
Merci. Et puis tu vas donc nous expliquer cette méthode plutôt.
Oui, je vais vous expliquer la méthode utilisée dans ce qu'on appelle la construction de l'histoire. Alors, c'est une méthode qui exige non pas une vérité, mais un programme de vérité. Et donc, ce programme de vérité est basé sur deux possibilités de méthode. La méthode déductive ou la méthode inductive. Je vais commencer par la méthode inductive, c'est-à-dire induite par la découverte de l'archive. Dans un premier temps, il y a la justification de l'archive. Ne peut pas être pris comme archive tout et n'importe quoi. L'historien doit donner la preuve que son choix est bon.
Et donc voilà. Il doit préciser ses archives.
Il doit préciser ce qu'est cette archive, écrite, non écrite, d'où elle vient, comment elle a été rédigée, pour qui elle a été rédigée, etc. Donc ça, c'est une part importante, c'est-à-dire quelque chose qui entraîne l'esprit critique. Ensuite, une fois qu'il a justifié son archive, il la classe, c'est-à-dire qu'il a une collection d'archives dont il va se servir et il va les classer. En troisième étape, il en fait la synthèse. Et c'est cette synthèse qui devient la construction historique.
Alors, comment va-t-il vérifier la crédibilité des sources ?
Comment il la vérifie ? En croisant. C'est-à-dire qu'il ne peut admettre pour vrai une seule source. Il faut qu'il y ait plusieurs sources à propos du même thème ou du même sujet, et il les croise, et en les croisant, il arrive à les justifier ou pas.
Ensuite, une autre question que je me pose, lorsque, par exemple, prenons le cas de la presse. La presse est toujours orientée, il y a un bord ou il y a un autre. Dans chacun des exposés, il y a des vérités factuelles et il y a des vérités d'interprétation. Comment l'historien va pouvoir choisir ce qui pourra constituer sa thèse ?
Ben justement, avant d'établir ce qu'on appelle sa synthèse, ce que tu appelles toi sa thèse, avant d'arriver à ce point-là, il faut qu'il justifie ses sources. C'est-à-dire qu'il explicite comment il les a eues, qui les a écrites ou non écrites, ou les découvertes, pour qui elle a été écrite, et c'est le cas de la presse.
Oui.
Donc s'il a un article de journal à analyser et à faire rentrer dans sa construction, il faut qu'il précise l'auteur, le temps, le pourquoi, le comment.
Sans prendre parti. Cet article de presse prend un parti.
Non, ça simplement, il décrit cette archive pour la justifier, pour justifier le fait qu'il le prenne comme archive. Mmh. Après, il va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'il va analyser ce dont parle cet article. Et puis ensuite, il va interpréter ou pour ou contre, ou plutôt mélanger, voilà, ou apporter la contre-archive. C'est dans la presse ce qui arrive souvent, parce que les journalistes ont des partis pris, et donc il faut savoir connaître ces partis pris pour prendre ensuite le contre-pied.
Bon, de même par exemple, un autre exemple, les photos. La façon dont on va cadrer la photo peut influer sur l'interprétation de la chose.
Oui, ça c'est le problème de l'image et c'est extrêmement important, d'où le développement d'une science d'analyse de l'image. C'est vraiment très important. Je donne un exemple très parlant. Pendant l'occupation allemande à Marseille, par exemple, pour prendre Marseille, il était interdit de prendre des photos. Seuls les Allemands, qui étaient accompagnés par un groupe de propagande, qui avaient le droit de prendre des photos dans un but très précis. Le but, c'était par exemple pendant les arrestations de Juifs, c'était montrer que ces Juifs faisaient partie d'une race inférieure et qu'on avait raison de les exterminer. Donc, la photo était prise pour ça. Mais renversement de situation, aujourd'hui quand on revoit ces photos, on peut avoir une attitude totalement inverse, parce que qui un regard, qui un geste, ça peut influer sur notre perception de la photo et entraîner une certaine pitié, une certaine empathie. Donc là, c'est l'objectif allemand a complètement foiré.
Alors aujourd'hui, on a des techniques scientifiques très poussées qui permettent, je dirais, j'emploie un mot, de falsifier la vérité.
Oui.
Par exemple, modifier des photos, par exemple, imiter des voix, etc. Que fait l'historien devant ces dangers ?
Bon, alors là, il y a des historiens qui sont spécialistes de la question, parce que dans le cadre d'une propagande, la falsification existe depuis très longtemps. Je vais prendre un exemple très simple, c'est la position de Trotsky, son rôle dans la révolution russe, mais revu et corrigé par l'historiographie stalinienne. Chaque fois qu'on avait une image où on voyait Trotsky agiter un drapeau, participer à une réunion aux côtés de Staline, eh bien, on cachait, on occultait cette partie de la photo en mettant un drapeau, par exemple. Alors, il y a des photos qui sont parfaitement réussies, où on voit bien le drapeau et rien que ça, et il y a d'autres où celui qui a falsifié la photo a commis une erreur. Par exemple, quand on voit la photo de Dubček pour la révolution en Pologne, on a voulu effacer le rôle de Dubček. Donc on l'efface, on met bien un drapeau ou un tabouret devant, mais l'embêtant, c'est qu'on n'a pas pensé au nombre de paires de chaussures. Donc il y a plus de paires de chaussures que d'hommes représentés, et on voit que ça a été une photo falsifiée.
Ça, il faut vraiment faire une analyse pour ça.
Voilà, voilà.
Mm-hmm. Bon, de la même façon, enfin, tu nous as dit que l'histoire est écrite, elle dépend de celui qui l'écrit.
Oui, totalement. Parce que celui qui l'écrit, qui construit cette histoire, est partie prenante entièrement. On sait que l'histoire n'est pas objective. Alors, il y a une part de subjectivité de l'écrivain, de celui qui écrit. Il entre comme partie prenante de cette histoire, par son passé, par son vécu, par son histoire familiale, par son histoire collective. Mmh. Et donc, par exemple, moi, je n'ai pas le même point de vue en tant que juive et historienne. Je ne peux le cacher, historienne juive. Je n'ai pas le même point de vue qu'un négationniste.
C'est clair.
Qui écrit différemment. Donc, comme dans une expérience scientifique, l'objet que l'on veut montrer dépend de l'observateur, plus encore que de l'observé.
Bien. Est-ce que les nouveaux moyens d'investigation amènent quelque chose à la vérité historique? Les nouveaux moyens, par exemple, je pense à la numérisation des archives, oui, qui permet à de nombreux chercheurs, sans se déplacer, d'aller travailler sur ces archives. Moi, je t'ai connu allant très souvent à Paris et ailleurs, pour oui, ces archives. Oui. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès à beaucoup de choses.
On n'a pas accès à tout, il ne faut pas exagérer. Et quand on a accès à des archives numériques, rien ne remplace le papier et puis les trouvailles fortuites qu'on peut faire. Parce que on dépend de ceux qui ont numérisé.
D'accord,
c'est toujours pareil. Alors, je vais donner un exemple très simple. Quand j'ai consulté les archives du commissariat aux questions juives à Marseille, j'ai consulté un dossier qui était le dossier de la famille Zermati. Aujourd'hui, la famille Zermati n'a plus aucun rôle dans la communauté juive, parce qu'il y a de nombreux membres de cette famille qui se sont convertis au catholicisme. Mais la famille Zermati était une grande famille juive marseillaise, au point que c'était des banquiers. Ils avaient créé le comptoir de l'escompte rue Pavillon. Et donc, c'était des gens qui comptaient dans la communauté. Alors, cette famille Zermati, quand j'ai consulté les dossiers d'arianisation, puisqu'ils ont été bien sûr arianisés, j'ai découvert que cette famille Zermati avait... J'ai découvert une photo, une minuscule photo, mais comme je n'avais pas le droit de toucher à ces archives, bien sûr, je l'ai laissée là où elle était. Et sur cette minuscule photo, il y avait un château, et en dessous, une légende, le château Zermati à Saint-Loup, qui a servi d'hôpital pendant la Première Guerre mondiale. Eh bien, j'ai cherché cette... D'abord, j'ai demandé aux archives de m'envoyer les archives numérisées de cette famille. Donc, la photo n'y est pas. Ça, c'est un premier manque. Un deuxième manque, c'est que quand je cherche à Marseille, eh bien, j'ai rien trouvé sur le château Zermati. Voilà un des exemples nombreux qui fait que même les moyens d'investigation modernes laisse des blancs dans l'histoire qu'on écrit.
Bon, alors tu nous as parlé donc de deux méthodes, la méthode inductive et la méthode déductive. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple? On commence par la méthode déductive, c'est
non,
ça?
Inductive.
Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples?
Oui, je peux donner l'exemple de la guerre 39-45, l'exemple de la colonisation, l'affaire Dreyfus, etc.
Voilà,
alors, prenons l'exemple d'une guerre quelconque et d'une civilisation, de la conquête d'une civilisation par une autre. Ça, c'est le très, très beau livre de quelqu'un que j'admire beaucoup, qui s'appelle Nathan Wechtel, qui est aujourd'hui au Collège de France et qui a écrit La revanche des vaincus et qui montre que, en fait, l'histoire qu'on a écrite de la conquête des États-Unis, c'est l'histoire de vainqueurs qui ont laissé de côté complètement ce qu'on appelle les natifs, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà sur place au moment de la conquête. Et donc, il a pris cet exemple et il développe dans ce bouquin tout ce qu'il a pu retrouver. Alors aujourd'hui, il a été obligé de s'atteler à retrouver des archives, ce qu'on pourrait appeler des archives mineures, c'est-à-dire des restes d'art, tapisseries, tessons, etc. Et il a essayé de reconstruire cette histoire en la voyant du côté des vaincus. Mais c'est quelque chose de tout à fait classique, que quand on écrit une histoire, eh bien on l'écrit du côté des vainqueurs. Mm-hmm. Ça, c'est un premier exemple. Oui. Il y a un deuxième exemple, je m'avais demandé...
Oui, l'affaire Dreyfus, par exemple.
L'affaire Dreyfus. Alors, en quoi l'affaire Dreyfus participe-t-elle de la méthode inductive ? Ben, tout simplement parce que celui qui a écrit... sur l'affaire Dreyfus, ceux, ils sont nombreux, qui ont écrit sur l'affaire Dreyfus, ont utilisé la méthode inductive, c'est-à-dire qu'ils ont collationné les archives, y compris la presse de l'époque, par exemple l'article J'accuse de Zola, y compris les...
Il y en a eu un, l'article L'Aurore, qui dit « Dreyfus est coupable puisqu'il est juif ».
Voilà, tout simplement. Mais c'est... En fait, c'est la presse qui a fait l'affaire Dreyfus. Sans la presse, les Juifs n'auraient pas bougé, parce qu'ils étaient persuadés comme beaucoup d'autres. C'était l'époque splendide du franco-judaïsme. Ils étaient persuadés que Dreyfus était coupable. Et il a fallu toute la hargne, toute la volonté des frères Mathieu, de sa femme Lucie, qui est complètement occultée dans l'histoire, qui a joué un très très grand rôle, et pour montrer que Dreyfus avait été innocent et qu'il avait été accusé parce que juif. Mais tout ça, c'est une méthode inductive.
Pourtant, quand on parle de Dreyfus, encore récemment, on a parlé à la télé et ailleurs de l'affaire Dreyfus, les gens sont très émus, se battent, et se contredisent, etc. Ça veut dire qu'on n'a pas atteint une vérité définitive.
Ah oui, je pense que la vérité, enfin ça dépend des historiens. Ça me rappelle un article de Zemmour qui disait que rien n'est montré encore. Bon, mais c'est son choix. Non, je pense que maintenant, on ne peut pas revenir sur l'affaire Dreyfus. On a bien démontré que c'était Esterhazy qui était le vrai coupable et qu'en fait, toute l'armée suivait Esterhazy parce qu'il voulait cacher l'invention d'une arme.
Très bien, enfin. Ok, il n'empêche quand même que quand on évoque cette affaire, il y a encore des passions qui s'élèvent.
Oui, et on va faire un colloque à l'Académie et mon collègue François Clarac tenait à montrer justement cette dichotomie au sein de la société française entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard et même au sein d'une même famille. Parce que, par exemple, il y a une célèbre caricature de Carandache qui montre une famille réunie autour d'une table. Ça me rappelle Mimouna, ça.
Oui,
une famille autour d'une table complètement réjouie, en train de parler. Et puis, deuxième dessin, alors, avec en dessous, ils en ont parlé. Des chaises cassées, les uns d'un côté, les autres de l'autre, ils se sont bagarrés à propos de l'affaire Dreyfus au sein de la même famille.
Bien, je voudrais que, avant qu'on fasse une pause, que tu nous dises aussi, enfin quelques mots, il faudrait dire beaucoup plus que ça, au niveau de l'affaire de la guerre 39-45 et puis des différents historiens qui ont écrit à ce sujet.
Ben, ils ont utilisé la méthode inductive, toujours. Ils étaient dépendants des archives de l'époque. Alors, il y a eu, dans un premier temps, une volonté de montrer qu'il y avait un partage des rôles entre Pétain et De Gaulle. Ça, c'est l'histoire officielle, celle que Vichy, après, l'a soutenue et celle qui a été soutenue par nombreux historiens, à la suite Robert Aron, avec donc cette volonté de montrer d'un côté le glaive, c'était De Gaulle, de l'autre le bouclier, c'était Pétain. Et puis arrive dans les années, ça c'est jusqu'en 70, oui. Et puis arrive dans les années 70 une claque aux historiens français, c'est Paxton qui montre dans l'histoire de Vichy, son bouquin l'histoire de Vichy, parce qu'il est allé voir dans les archives allemandes, parce qu'il est allé voir un peu plus que ne pouvaient les autres, qui montre que c'était la volonté de Pétain de participer à la collaboration avec les Allemands parce qu'il pensait que la guerre serait victorieuse pour les Allemands.
Bien. Alors, écoute, on vient de parler de cette méthode. Je te propose une pause musicale et nous allons ensuite parler de l'autre méthode. Alors, René, tu viens de nous parler de la méthode inductive.
Oui.
Est-ce que tu veux bien nous parler de la méthode déductive et puis de nous donner aussi quelques exemples?
Oui, alors la méthode déductive consiste à partir d'une hypothèse ou d'un modèle.
Un modèle.
Alors, je vais expliquer en géographie, c'est plus simple parce que c'est moins complexe. Par exemple, on prend un modèle de ville. Alors, le modèle, c'est centre et périphérie. Mmh. En montrant que la ville s'est construite au centre, d'abord à partir de lieux symboliques, l'église, la mosquée, la synagogue, tout ce que tu veux, la mairie, et puis qu'ensuite, autour de ce noyau central, s'est construit la première banlieue, la deuxième banlieue, donc ces modèles centre et périphérie. Alors on va prendre ce modèle, qui est un modèle qui a été inventé par un géographe sud-américain, Zimeo, on va le prendre, on va l'appliquer pour toutes les villes, et on va voir que ça fonctionne, même pour une ville qui est une ville coloniale comme Casablanca. Voilà, c'est ça le modèle.
Bon.
Donc on part d'un modèle et on va voir si ça marche avec ce modèle, l'histoire qu'on veut construire. Alors, je vais prendre pour exemple, ou alors d'une hypothèse. On fait une hypothèse de travail et on va travailler sur cette hypothèse pour montrer si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc, je vais prendre un exemple très connu, celui de la Révolution française. Cette Révolution française, la construction historique en France, a été pendant très longtemps construite sur le modèle de la Révolution russe. Alors, l'idée, c'était de voir dans la Révolution russe, c'est la Révolution du peuple par le peuple. Donc, Révolution française, idem, machin. Voilà, ça c'est le départ. Et puis arrive un moment où un historien qui s'appelle François Furet, dit, mais non, ça va pas, ça marche pas, c'est pas un bon modèle. Pourquoi dit-il ça? Parce qu'entre-temps, on a découvert que la Révolution française, c'était pas la révolution du peuple par le peuple, mais c'était un coup d'état, la prise du pouvoir par un parti, le parti bolchevique, au nom du peuple.
Ah oui.
Donc ça, c'est plus la même chose.
Mmh.
Et il va transférer ça, et il va montrer que la Révolution française, qui a longtemps été vue à travers le filtre marxiste, ça fonctionne pas. Et il a conçu un modèle autre, qui est un modèle de construction de la Révolution française en plusieurs étapes. D'abord la Révolution nobiliaire, ensuite la Révolution bourgeoise, et en fait c'est une vraie Révolution bourgeoise.
Mmh. On a eu un peu des exemples de cette façon de voir dans certaines révolutions des pays orientaux, il n'y a pas longtemps, qui a été reprise, etc. etc. Bon, ok. Donc voilà pour la méthode déductive. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps. Devant ces... Alors là, on a vu que finalement la vérité n'existe pas, des vérités existent, des points de vue existent, etc. Et devant quelquefois ces contradictions, qu'est-ce qu'on peut enseigner à nos enfants, à nos futures générations? Est-ce qu'il faut leur enseigner ce qu'il faut penser? Est-ce qu'il faut leur enseigner comment penser? Est-ce qu'il faut leur enseigner le doute?
Alors, sûrement pas ce qu'il faut penser.
C'est clair.
Sûrement pas. Par contre, leur enseigner le doute, mais avec un argumentaire précis. C'est-à-dire qu'en fait, notre objectif à nous, profs d'histoire, c'est d'enseigner l'esprit critique. Donc leur apprendre, par exemple, que quand on a un document sous les yeux, appliquer la méthode de l'histoire positive qui a été inventée au moment où toutes les disciplines ont été inventées, c'est-à-dire au 19e siècle, appliquer cette méthode, c'est-à-dire préciser qui est l'auteur, pourquoi il écrit, qu'est-ce qu'il écrit, avant de rentrer dans le document. Donc c'est se bâtir déjà un argumentaire qui permet d'interpréter.
C'est-à-dire qu'il faut se dire, il ne faut pas se dire c'est écrit donc c'est vrai.
Ah non, absolument pas. Personne ne te dira ça, sauf les faussaires de l'histoire.
Très bien. Bon, une dernière question. Oui, il nous reste 2-3 minutes. Quel est le poids de l'histoire aujourd'hui?
Il est énorme. Je trouve qu'il est même trop grand par rapport à ce que c'est. Parce qu'il y a d'autres disciplines. Alors, la justification, c'est que ça apprend à penser. Mais il y a d'autres justifications. Il y a d'autres disciplines. Par exemple, la philosophie apprend à penser encore plus que l'histoire. Par exemple, la politique apprend à penser, mais à condition de le voir de manière, j'allais dire, le plus objectif possible. Mais aujourd'hui, quel que soit le sujet, on va chercher un invité historien pour discuter du sujet. Ça, je trouve que c'est vraiment pas la peine de le faire. Souvent, et surtout qu'aujourd'hui, avec le gonflement de l'ego histoire, ces fameux historiens, ils pensent plus à leur carrière qu'à autre chose.
Ce qui est vrai. On court derrière les... C'est tout à fait vrai. Eh bien, écoute, René, on va appliquer cette méthode pour apprendre à penser. Et en tout cas, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations et tout ce savoir que tu nous as amené.
À ton service, mon vieux.
À très bientôt, chers amis. Au revoir. C'était Judaïsme pluriel. Alors à la semaine prochaine. Au revoir.